ravi de vous accueillir dans ce bâtiment qui a été construit, qui est sorti de terre et qui a ouvert au public en 2002. La première fois le 21 juin 2002 et puis ensuite au 1er juillet. Donc ça, on a 4 ans d'existence. On entame la 5e année. Les architectes en sont Pierre Dubessé et Dominique Lyon, qui ont réalisé la première BMWR française Orléans. Il y a un petit peu de retour. Qui ont réalisé également la bibliothèque municipale de Lisieux. Et pour resituer pour les personnes qui ne verraient pas ces bibliothèques, ils ont fait le siège du Monde, le journal Le Monde. Ce sont des architectes qui sont sur la place et qui sont en train de réaliser la plus grosse construction à l'heure actuelle, 25 000 m² à Clermont-Ferrand. Là, pour vous donner une idée, la BMWR de Marseille-L'Alcazar, c'est 21 000 m² de surface utile. Là, on est un cran au-dessus encore en termes de taille. Ça sera sans doute le plus gros bâtiment de lecture publique construit ces 10 dernières années. À quelque chose près, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous êtes là dans un espace qui est temporairement utilisé pour faire des conférences, des spectacles, etc. Parce qu'habituellement, tout se déroule dans l'espace où vous vous trouviez précédemment, dans la grande salle que je ne vous ai pas présentée ni montrée, que je vous invite à aller voir à la pause. Il y a une exposition en cours sur Étive de la Bretonne qui démarre à 13h. Donc vous verrez un petit peu cet espace qui est très particulier, qui regroupe une cinquantaine de milliers de volumes et qui est la copie, la reproduction, non pas à l'identique, mais à quelque chose près, de l'ancienne grande salle de la BMWR de Troyes, de la bibliothèque municipale de Troyes. Si je vous parle de ça, c'est simplement pour vous dire où vous vous trouvez. Donc c'est l'une des trois BMWR de Champagne-Ardenne, les deux autres étant celle de Reims et celle de Châlons-Champagne. Je suis ici au titre non pas de directeur adjoint de l'établissement, mais de vice-président d'Interbibli, l'agence de coopération régionale pour les bibliothèques et les archives en Champagne-Ardenne, qui organise cette journée, après avoir organisé une journée le 12 octobre sur la fin du catalogage, avec un point d'interrogation bien évidemment. Donc, je vais simplement vous présenter et vous citer les différents intervenants de la journée. J'espère que j'en oublierai pas. Le programme a légèrement été modifié. Je l'ai publié sur BioFR. Malheureusement, il n'est pas sorti en temps et en heure. Donc, ce matin, j'interviendrai de façon inaugurale sur le cas d'E-Tech. Ensuite, on aura une table ronde animée par moi-même, parce que Michel Fingerhut n'est pas présent, malheureusement, qui réunira Nicolas Blondeau, Gilles Pierret. J'avais le programme dans la poche, je finis par plus m'y retrouver, et Tony De Wurst de la médiathèque de Belgique. Et en début d'après-midi, et jusqu'à 17h30 au plus tard, j'avais mis 18h, mais c'est pour vous permettre de visiter un peu l'établissement avant de partir, vous aurez une intervention, pour des raisons de train, l'intervention de Martigues passera en premier, pour qu'il puisse rentrer en temps et en heure, hein, les aléas du TGV. Ensuite, une intervention de présentation de la médiathèque de Belgique, la présentation du service e-tech et les projets du réseau des bibliothèques de Genève. Nicolas Blondeau présentera tout ce qu'il a fait en matière de lecture publique durant la table ronde, et on aura largement le temps de ce matin, on aura largement le temps d'en discuter. Vous aurez également une intervention, j'espère que j'oublie personne, parce que comme j'ai largement modifié le programme, vous aurez une intervention, mais forcément, ça ressemble, ça fait un petit peu improvisé, mais comme il n'a pas été publié, je suis obligé de revenir un peu dessus. Et vous aurez une intervention également d'une solution de protection de fichiers, d'une société qui s'appelle VivaCode et qui travaille avec Tonality, et qui propose non pas une DRM, mais du contrôle d'accès sur les fichiers, tout simplement. Parce que le mot DRM fait un petit peu peur. Disons que c'est une solution un petit peu différente qui vous sera présentée. Voilà. Donc dans la salle, il y a des gens qui viennent un petit peu partout de France. Le principe de la journée, ce n'est pas d'avoir des présentations sur des rails et puis à partir desquels on ne discute pas. Je souhaite qu'il y ait des interventions les plus nombreuses possibles. On est là pour discuter, parce que ce sont des questions qui font débat, qui sont très problématiques aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer. en vous disant un petit peu quelle est l'origine du projet troyen, et puis les aléas qui ont été rencontrés et ce que l'on souhaite faire aujourd'hui et dans les mois qui viennent. La première chose qu'il y a à dire pour vous dresser un tableau rapide des services qui parlent de musique en ligne en bibliothèque, c'est que lorsqu'on a commencé à se poser des questions avec Thierry Delcourt sur ces sujets au début de l'année 2005, d'autres personnes avaient traité ces questions bien avant, mais il n'existait dans le monde que deux solutions de bonne qualité en bibliothèque. Netmusic.dk, le service danois, et la solution qui n'était pas encore totalement implantée aux États-Unis, la solution de la société Overdrive, qui aujourd'hui, je n'y reviendrai pas, je le cite simplement à titre de mémoire, le site de la bibliothèque c'est overdrive.com, overdrive.com. Cette société propose du téléchargement vidéo, audio et d'audio e-book dans les bibliothèques publiques américaines pour avoir navigué un tout petit peu sur le web rapidement. Elle est proposée à la New York Public Library. Cette solution globale est proposée à la New York Public Library et proposée à la Los Angeles Public Library. Je suis allé faire un tour sur le site de San Francisco, c'est la même chose, donc la San Francisco Public Library. Et au Canada, la solution se trouve, et Christian, je pense que tu ne me seras d'accord avec le fait que c'est pour les livres audio, elle est hébergée à la Bibliothèque publique d'Ottawa, sur le réseau de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Voilà. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site des bibliothèques publiques d'Ottawa pour voir un petit peu la solution proposée. Donc voilà ce qui existait. Et en France, à ma connaissance, il n'existait qu'un service d'envergure moyenne qui a déjà été évoqué dans d'autres journées d'études et sur lequel vous avez une présence, qui est largement évoqué sur le site de la CIM, c'est l'e-music box à Limoges. C'est hébergé par le site de Limoges, la bibliothèque francophone et multimédia de Limoges. Ce site est expérimental. Il s'agit, ce n'est pas une base de données, c'est simplement quelques pages HTML avec des liens vers des morceaux que l'on peut écouter en streaming, qu'on ne peut pas télécharger, dont les droits sont négociés, dont les droits d'écoute sont négociés gratuitement en fait. L'e-Music Box présente les groupes locaux de la région Limousine, du Grand Limoges en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le terrain Limougeau, ce sont les habitants de Limoges, le terrain Limougeau, il y a une scène rock intéressante. Voilà pour les expériences existantes. Donc, la réflexion c'était de dire, en bibliothèque publique, que peut-on faire dans une médiathèque d'une ville de taille moyenne, d'une agglomération de taille moyenne, pour enrayer un certain nombre de difficultés que l'on rencontre, qui sont rencontrées dans notre bibliothèque, et pour essayer de développer une politique de services en ligne variée. On a commencé par travailler sur le livre, et puis on a vu que le livre, ça fonctionnait, les e-books, on a vu que ça fonctionnait moyennement. Donc on s'est dit, ce sont des choses qui s'installent sur le long terme. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment demandé, il faut un petit peu s'adapter à la nouvelle donne technologique. Je ne parlerai pas de révolution numérique, parce que ça, ça reste un vaste débat. Il faut simplement s'adapter à la nouvelle donne technologique et proposer des choses qui permettent à un public qui ne venait pas nécessairement en bibliothèque, sans être naïf, ou un public qui a arrêté de fréquenter la bibliothèque, ou un public qui fréquente la bibliothèque de manière différente, d'avoir du contenu à disposition à distance. Voilà un peu l'idée. Tout ça parce que, pour avoir eu des discussions il y a un certain temps avec Tony De Wurst et son directeur de la bibliothèque de Belgique, il nous signalait, et il me reprendra si je me trompe, qu'ils avaient des baisses de prêts de CD assez importantes, de l'ordre, je me souviens du chiffre, peut-être que je me trompe, de 4% par an, un peu plus maintenant. Donc 4% par an sur une collection de CD qui représente environ 880 000 titres, ça commence à faire beaucoup. Et nombreuses sont les bibliothèques aujourd'hui en France à connaître ces baisses. Je ne dis pas que c'est systématique. Je dis simplement que ça représente qu'il y a un symptôme, qu'il faut s'interroger dessus, et je crois que les bibliothécaires musicaux s'interrogent dessus depuis longtemps, et qu'on est obligé d'essayer de trouver des solutions. D'abord pour comprendre, et ensuite pour y répondre. Pour répondre à cette baisse, savoir quel est l'avenir du support et quel est l'avenir de la musique en bibliothèque. Alors, le service qu'on a développé, il s'est inscrit simplement dans le cadre d'une politique de diffusion de contenu dématérialisé, mais une politique plus large. On ne fait pas que de la musique. On ne réfléchit pas que sur la musique, on réfléchit sur la diffusion de contenu dématérialisé, de manière large, et de services dématérialisés. C'est très clair. On n'est pas du tout sur un petit maillon de la chaîne. On essaie de réfléchir de manière globale, comme le font toutes les bibliothèques, comme le fait la bibliothèque de Montpellier, comme le fait la bibliothèque de Marseille, comme l'initie la BPI de manière large, au travers du service Carrel pour la coopération numérique, au travers du service de coopération et notamment au travers du service BiblioSésame. Donc, on s'est interrogé sur les e-books, on a mis en place un service pour les e-books au travers de Carrel, chose qui avait déjà été faite à Boulogne-Billancourt par Alain Pathès. Aujourd'hui, c'est la Bibliothèque nationale du handicap, la Bibliothèque numérique du handicap, excusez-moi. On s'est interrogé sur la musique, c'est ITEC qui est arrivé. On s'est interrogé sur la vidéo, à partir de demain, on peut télécharger les vidéos d'Arte sur le site de la Bibliothèque de Troyes. Voilà. On s'est interrogé sur les services de questions-réponses, de références. On a vu un certain nombre de choses. Et la BPI a initié de son côté le service BiblioSésame. La BNF a initié de son côté le service Simbad. Et aujourd'hui, des bibliothèques universitaires se regroupent localement, c'est le cas sur la région Grand Est, et se posent des questions sur la mise en place de services de questions-réponses. Donc ce sont des choses qui en bibliothèque publique, qui étaient déjà vues en bibliothèque universitaire, mais qui en bibliothèque publique commencent à rentrer dans les mœurs. J'essaie de dresser là le tableau d'une politique de service. Pour en venir à la musique, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé interroger les personnes qui nous semblaient les plus à même de pouvoir nous répondre à nos attentes et à nos questions, les grandes majors et les plateformes commerciales, dans un premier temps. J'en avais déjà parlé à Nantes, je l'ai dit à Auch, je l'ai dit dernièrement à Plumeur, donc je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsque vous interrogez la FNAC, e-music, e-compile, pardon, c'est la plateforme d'Universal, vous interrogez Virgin Mega, et je me suis permis de les réinterroger suite aux discussions de la BF, suite à ce qu'avait dit Julien Lurich, d'ailleurs très intéressant. Je vous livrerai le contenu de sa réponse tout à l'heure. Vous interrogez Cora Music, vous interrogez Musique Millennium, enfin Musique Me. Vous interrogez M6 Musique, enfin toutes les plateformes possibles et inimaginables. Et elles vous répondent sur une fin, Sony Connect et puis évidemment iTunes. iTunes et Sony Connect n'ont jamais répondu. Fnac Music, j'ai le directeur commercial qui m'a dit de toute façon, on travaille pour les particuliers. Puisque nous, on délivre du contenu dont les droits sont négociés, on ne pourra jamais rien faire avec vous. Mais Universal, ils compilent, ils sont propriétaires du contenu. Ils sont propriétaires des droits. Ils peuvent renégocier les droits. Ça ne les a pas intéressés. Virgin Media, je leur ai exposé la solution. Et j'ai eu un premier contact, je réexposé la solution par mail, j'attends toujours la réponse à mon mail, ça fait un an et demi maintenant. Les deux seules réponses intéressantes, c'était celle de Virgin Mega, et puis Julien Ulrich, là, que j'ai contacté il y a un mois, m'a redonné la réponse qu'il avait donnée dans le cadre des journées de l'ABF, réponse relativement intéressante. Universal est arrivé vers moi et m'a proposé, sans se poser de questions, une plateforme de téléchargement payant. Clairement. Donc, dans le cadre français, dans le cadre d'un service public, c'est quelque chose qu'on a été obligé de refuser. Il nous a proposé pour 5000 euros TTC une marque blanche, donc il nous construisait un service avec un nom de domaine dédié, etc. On faisait un lien, on était administrateur et on lui achetait du contenu qu'on revendait comme on le souhaitait, pas nécessairement sur les prix du marché. On achetait des packs familiaux du style Laurie, Amel Bent, on mettait des choses côte à côte, on faisait des packs, on vendait des groupes de fichiers à un prix défiant toute concurrence, et Universal prenait, on lui achetait le contenu dans un premier temps, et il prenait 20% sur les ventes. Voilà le modèle commercial qui nous a été proposé. En bibliothèque publique, on ne peut pas, avec de l'argent public, dans un lieu qui a déjà été construit sur de l'argent public, avec de l'argent public, racheter un service et revendre du contenu. C'est totalement impossible, pour le moment. Pour le moment. parce que la solution de la médiathèque de Belgique, que vous verrez cet après-midi, la plateforme ayant été inaugurée le 14 novembre, j'y suis allé le 14 novembre voir à quoi ça ressemblait, etc. Rencontre, je ne sais pas si c'est le 14, c'était bien ça, c'était ce qui était prévu. Rencontre déjà du succès en termes de vente. Mais le statut de la médiathèque belgique est un petit peu particulier. On vous en parlera cet après-midi. Voilà. Mais vous voyez que dans un premier temps, les contacts pris ont été, n'ont pas été positifs. Petit bémol. Musique Millennium m'a dit, écoutez, vous regardez le contrat qu'on propose aux individuels et puis vous prenez autant de contrats que nécessaire et vous proposez à vos usagers de se loguer avec les mots de passe que vous aurez à votre disposition. Mais si on veut mettre ça, quel que soit le type de bibliothèque, pour 50 000 usagers, pour 7 000 ou pour 100, on va payer le montant, les frais d'accès, le montant mensuel de temps, ce qui est proposé par la FNAC actuellement ou ce qui a pu être proposé par Musique Millennium, parce que la solution d'écoute en streaming et de retour proposée par la FNAC, elle avait déjà été proposée précédemment par Musique Millennium. Il y avait quelque chose qui existait déjà. Cette solution-là, elle peut être viable. La seule difficulté, c'est qu'il faut savoir jusqu'où on va, où on s'arrête. Or, en plus, on est sur des contrats individuels. Ce n'est pas un contrat pour une collectivité. Donc là, il y a des choses à renégocier du point de vue juridique. Et il n'est pas sûr que les services de collectivité soient d'accord. Donc ces solutions-là, pour le moment, on les a pas testées. En raison des coûts, principalement. Et en raison des problèmes juridiques. Voilà un petit peu le tableau. Donc on s'est tourné fin juillet 2005, après une première démarche, je contacte Naxos, j'achète 5 accès ou 6 accès en ligne localement, je mets ça en place, ça n'a jamais été utilisé, sur place. Soit bien clair, les accès distants fonctionnent sur place parce qu'on n'a pas fait nécessairement de publicité, etc. Ça n'a pas été utilisé. Donc j'ai été la seule personne à écouter des albums de temps en temps. En plus, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, pour des raisons de bande passante, etc. Ça a duré pendant un an. J'ai abandonné le service. J'ai mis en complémentarité un autre service qui s'appelle Classical Music Library, qui est proposé par Thomson Henry. Il devait y avoir peut-être aujourd'hui un représentant de la société anglaise. J'ai l'impression qu'il n'est pas arrivé, il ne viendra pas. J'avais prévu c'était une possibilité, malheureusement ils ne sont pas venus. C'est un service qui est proposé dans le cadre de Carrel et ils vont proposer des accès distants pour les bibliothèques. Je leur ai posé la question, ils sont en train d'y réfléchir pour début 2007. Donc début 2007 à 3, on a des accès distants sur des bases de données variées pour un coût modique. Mais ça sera proposé dans le cadre de Carrel. Donc toutes les bibliothèques pourront s'abonner. Voilà ce qui était proposé, ça n'a jamais fonctionné. Donc, qui dit consultation sur place ne fonctionne pas à 3, on s'est dit, il faut tester à distance, après les négociations qui se sont passées. Et là, pour clore sur l'historique, en octobre 2005, je reçois sur la boîte mail contact de la bibliothèque une offre, une première mondiale, vente d'un service de téléchargement qui proposait de la vente de contenu. Je me suis dit, puisque ça n'a pas marché en France, on va tester ailleurs. J'ai posé la question au Québec et puis ITEC est né. Voilà. Le principe au départ, c'est de faire une plateforme de prêt numérique. Et le prêt numérique, il faut être honnête, on en est encore loin, parce que la première solution qui était proposée n'a pas été viable. Il a fallu en trouver une seconde, qu'on a réussi à trouver après force recherche sur le net, qu'on vous présentera cet après-midi, qui n'est pas nécessairement la meilleure, mais qui est l'une des solutions compatibles qui permettrait de faire du téléchargement. Le téléchargement, on n'y est pas. Pour le moment, c'est de l'écoute en ligne, c'est du streaming, ce qu'on propose. Pas pour les livres électroniques, c'est vrai, parce que c'est ITEC. Je ne vous ferai pas nécessairement une démonstration complète, elle vous sera faite cet après-midi. Je vous montrerai simplement comment on écoute un morceau. ITEC, c'est une plateforme multimédia qui propose de la musique, des audiolivres numériques, donc des audio e-books, qui propose de la vidéo et qui propose des e-books. C'est pas uniquement de la musique. À l'heure actuelle, c'est 83 000 MP3, il y en a 10 000 qui sont versés sans apparaître, donc pour le moment 83 000 MP3, environ 13 000, vous aurez les chiffres précis, mais grosso modo, 13 000 MP3 de livres audio numériques, 1415 e-books à peu près, je crois, ou 1418, et 165 vidéos. Alors, lorsque j'ai présenté plusieurs fois ce service, la remarque qui m'a été faite, qui est justifiée, hein, qu'on essaie de prendre en compte, mais qui est difficile à prendre en compte, c'est, ben, c'est bien beau, dans un premier temps, vous proposez 5000 MP3. Quand j'ai parlé ça à Nantes, on m'a dit, ben d'accord, mais votre contenu, il est vraiment très très limité. On était sur du contenu, la scène alternative montréalaise, un contenu très homogène, qui avait son sens, mais payer tant d'euros d'accès pour 5000 MP3, d'accord, je prends un ou deux accès ou trois accès à distance, ou en ligne, pardon, à distance ou sur place à Naxos Music Library, et j'ai je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'MP3, à quoi ça me sert? Donc là, il y avait une limite. Donc on a commencé à se poser des questions, et la société Tonality a négocié des droits d'accès du label Naxos, et on a eu un versement entre les fichiers, entre les albums et les livres électroniques, et les livres audio numériques, excusez-moi, mais un versement d'à peu près 110 000 MP3, tout compris. Un petit peu moins 100 000, pour être tout à fait honnête. Voilà. Voilà. Mais à l'heure actuelle, ce que vous pouvez consulter, ce n'est pas ce qui sera accessible à moyen terme. Parce que le contenu négocié, mais il faut du temps pour le verser, il faut du temps pour l'indexer. Le contenu négocié, c'est entre 50 et 100 000 MP3 supplémentaires. Mais ça prend du temps. Voilà. Je ne dis pas que c'est le meilleur des services. Je dis que c'est une première phase de test. Une première phase d'expérimentation. Donc, ce qu'il faut aborder maintenant, ce sont les usages. Qui est intéressé par e-tech? Alors, à l'heure actuelle, ce service est ouvert à Troyes depuis 9 mois, à Montpellier depuis 15 jours. Donc, ce service est ouvert sur le réseau des bibliothèques de Montpellier. Il est ouvert à l'Alliance française de Shanghai et dans 4 bibliothèques montréalaises. Voilà, voilà où il est implanté. Il fonctionne à Troyes et à Montpellier. Je n'ai pas de chiffres, Christian Amoget vous en parlera, je n'ai pas de chiffres pour les autres, à vous communiquer pour les autres bibliothèques. À Troyes, il m'a fallu 9 mois pour avoir 127 usagers. À Montpellier, publicité oblige, 2 semaines, 50 usagers. C'est tout. Hein. Le contexte troyen est bien différent du contexte d'autres villes moyennes ou de plus grande importance, et je ne cherche pas à dire que c'est des choses qui s'implantent facilement à Troyes. Ce n'est pas le cas. Ce que je cherche à dire, c'est qu'on développe une politique de services en ligne, de lecture publique en ligne, en fait, de services dématérialisés, mais pas uniquement. Cette politique, elle s'inscrit dans le long terme, avec un bémol, c'est qu'elle est soutenue par les élus de la communauté d'agglomération. Elle était largement soutenue par l'ancien directeur, Thierry Delcourt. Je souhaite qu'elle soit soutenue par le nouveau directeur, qui, si tout se passe bien, sera nommé aujourd'hui, sera désigné aujourd'hui, puisque c'est la CAP des conservateurs. On arrive à un moment clé, parce que mon élu à la culture m'a demandé de faire un bilan en janvier ou en février. Parce que cette politique de lecture publique, conduite par la communauté d'agglomération troyenne en matière de services en ligne, elle a pour but avoué auprès des élus non pas de satisfaire des usagers déjà inscrits, mais de satisfaire des usagers nouvellement inscrits, donc d'attirer de nouveaux inscrits. La réalité est que pour le moment des nouveaux inscrits, j'en ai 3. Voilà, mais je suis tout à fait honnête. Je ne dis pas que ça fonctionne très bien, ce n'est pas vrai, mais les 3 usagers nouvellement inscrits, ce sont des personnes ayant un handicap visuel ou un handicap, qui ne peuvent pas se déplacer, etc. J'ai deux personnes, qui vivent dans le Val-de-Loire, notamment une personne à Orléans, et une mère et son enfant qui vivent à Besançon, par exemple, et qui sont très satisfaits du service, pleinement satisfaits. Je crois que Bertrand, qui travaille à la bibliothèque, est dans la salle et a testé hier le service e-tech parce qu'il n'avait pas la bonne version sur son poste. On lui a mis ce qu'il fallait, si je ne me trompe pas, et il m'a dit que c'était accessible. Bon, il a juste regardé. C'est-à-dire qu'avec JAWS, pour une personne déficiente visuelle, c'est accessible. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on est sur un site qui est normalisé, qui répond aux normes d'accessibilité. avec une synthèse vocale. Il reste à faire un travail, quels que soient d'ailleurs les sites proposés, à faire un travail pour les personnes qui ont une déficience visuelle limitée, notamment les personnes amblyopes. Ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas des sites des bibliothèques non plus, hein, pour être clair. Alors que la loi votée en 2005 le prévoit et oblige les collectivités à prévoir ce genre d'éléments. Elles ne l'ont pas encore pris en compte. Donc, voilà un petit peu le tableau. Les usages troyens sont des usages de curiosité. On inscrit quelqu'un, il regarde, et pour le moment, il ne revient pas. Mais quand il regarde, il va télécharger ou écouter 300 morceaux, 400 morceaux, 500 morceaux, sur un temps très court. Il a fait le tour de la plateforme, il s'en va. De temps en temps, il revient, mais on reste encore sur un élément de curiosité. Ce sont des choses qui ont 9 mois, avec un contenu spécifique. Il est très clair que pour installer cela, et c'est une conversation qu'on a eue tout à l'heure très rapidement avec Tony DeVurst, il faut avoir du contenu régional ou local. Il y a dans la salle un net label, un bibliothécaire rémois, je pense qu'il pourra intervenir et présenter son net label, et il est très clair que le but, c'est d'avoir un service équivalent à l'e-music box dijonnaise pour présenter du contenu local ou régional en fonction de la manière dont les principales bibliothèques de la région prendront le service ou développeront un autre service pour promouvoir la musique, parce que l'intérêt d'une plateforme de ce type, c'est de promouvoir la musique. Alors, quelles en sont les limites maintenant? Et pour clore ce que j'ai à vous dire, les limites, c'est dans un premier temps le fait que c'est un service d'écoute en ligne et qu'on n'en est pas encore à la solution de téléchargement qui est en cours d'implémentation. Mais il y a des difficultés techniques. C'est plus complexe à mettre en œuvre que ce qu'on croyait et que ce que le fournisseur de la DRM et de la solution de contrôle d'accès proposait. C'est plus compliqué. Parce qu'on peut télécharger des fichiers de petite taille, sans problème, on peut les encapsuler, on peut les télécharger, les rendre chronodégradables. Quand les fichiers sont d'une taille trop importante pour le moment, c'est un petit peu plus délicat. Donc la solution est en cours d'implémentation. Donc on est en phase de test, et ça prend du temps. Voilà où on en est. La deuxième chose, c'est la question des usages. On a un effet de curiosité. Quel service doit-on proposer aujourd'hui, que ce soit une plateforme d'écoute ou tout autre service de musique en ligne en bibliothèque, quel service doit-on proposer aujourd'hui pour avoir un public suffisant? Et d'une, parce que quand on met de l'argent public en face, il faut qu'il y ait efficience de cet argent public. Alors ça, c'est mon credo, mais qu'il soit partagé ou non, de toute façon, on dépense les impôts des contribuables, il faut qu'ils soient dépensés et utilisés à bon escient. La troisième chose, c'est que ce type de service ne s'installera que dans le long terme, parce que pour le moment on est en phase d'expérimentation. Je reviens sur un message de Nicolas Blando suite à une discussion sur la liste discothécaire.fr autour de la diffusion en bibliothèque de la musique gratuite sur internet. Il faisait remarquer, mais parce que c'est très récent, que pour le moment sa station de téléchargement dont il vous parlera, elle rencontre un certain succès, mais pas un succès certain pour le moment, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'usagers intéressés limité, parce qu'il faut faire de la publicité, c'est ce qui manquait aussi. Moi, je vais simplement revenir sur son expérience, qui me semble très intéressante, et c'est là où on a tout un travail à faire, c'est que le groupe des bibliothécaires de Franche-Comté, vous en parlerez, hein, voilà. Il y a un certain nombre de personnes, s'est réuni et a proposé, et c'est sur le site de la CIM, je ne sais pas où ça se trouve sinon, une base de données qui permet d'accéder à toutes les ressources musicales locales et tous les groupes musicaux. Hein. Voilà, c'est un travail en cours, mais il y a déjà un certain nombre de choses qui sont consultables. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a un outil qu'on peut utiliser quand on est en service public pour renseigner un lecteur. Parce que là, on se pose comme bibliothécaire, hein, pour enseigner un lecteur en service public. Or, la question aujourd'hui, c'est celle du service public. C'est plus celle uniquement de la collection de CD. Hein, pour enseigner un lecteur, pour aller soit vers le site d'un groupe qui mettra en ligne ses morceaux parce qu'il est sous licence Creative Commons, hein, gratuitement, ben voilà, c'est à tel endroit. Mais chez nous, parce que le téléchargement, ça passe par un client BitTorrent, on ne peut pas vous le proposer. Type Jamendo. Aujourd'hui, un site de musique en ligne d'importance, hein, vous en avez deux importants sur le sol français, je ne me trompe pas, il faut me reprendre si je me trompe, hein, vous avez Jamendo qui est basé au Luxembourg, qui a une interface en français et une interface en anglais, jamendo.com, J-A-M-E-N-D-O, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et l'ancien site musiclib.org, qui s'appelle désormais docmusic.net, si je ne me trompe pas, ou .fr, .net. Vous devez vous loguer. La seule difficulté avec le site Jamendo, c'est qu'il faut installer sur son PC ou sur une station de téléchargement à une bibliothèque un client peer-to-peer, type Emule, ou un client BitTorrent. Or, aujourd'hui, le téléchargement illégal dans le monde passe essentiellement non plus par les clients peer-to-peer, mais par les clients BitTorrent, type BitTorrent. En bibliothèque, on ne peut pas installer sur un poste un client peer-to-peer ou un client BitTorrent. C'est pas possible. Or, le site principal de musique, de téléchargement de musique légale gratuite, sous licence Creative Commons, utilise ce type de vecteur pour le téléchargement.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce genre d'interface? C'est pas l'interface qui est illégale, c'est le contenu.
Non, c'est le client qui est illégal. C'est le client. Jamendo, on peut le mettre. Mais pour proposer une station de téléchargement dans la bibliothèque, parce que c'est ce qu'on veut faire. Moi, j'ai pris en compte ce que vous avez fait. Je me suis dit, on va faire la même chose. Plus ou moins, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes moyens. Il y a des contraintes informatiques, etc. Mais sur le poste même, un client peer-to-peer, on ne peut pas le mettre. Légalement, on n'en a pas le droit. C'est tout. Je suis tout à fait déçu de cela, pour le moment. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, on est là pour en parler. J'avais prévu 10h30, il est 10h25. J'ai à peu près tout dit. Donc, place à la table ronde, mais avant, si vous avez des questions, j'y réponds. Voilà. C'est moi qui ai oublié de vous donner le micro, je suis désolé. Normalement, il fonctionne, sinon il faut.
Jean-Luc Gauthier, Jantès, l'inspection générale des bibliothèques.
Ah, attendez, est-ce que je l'ai mis sur...
Là, ça va mieux ?
Oui.
Voilà, c'est moi qui ne parlais pas assez fort. Lorsque nous faisons donc des visites de bibliothèques, évidemment, nous rencontrons des bibliothécaires perplexes, mais d'abord des élus. Et en particulier des élus qui nous disent, mais est-ce que c'est bien la peine de continuer à acheter des vidéos et des CD, puisque les évolutions technologiques que vous évoquez donc, s'annoncent ? Il y a aussi des bibliothèques, il en existe encore, qui ne sont pas passées du tout au CD et qui se demandent s'il faut faire l'économie de cette étape. Ma réponse est en général qu'on peut penser que les usages se cumuleront, mais je ne suis pas très fier ni très sûr de cette réponse. Mes questions sont les suivantes. J'ai cru comprendre que l'écoute, oui, pour la musique donc que vous évoquez était possible à distance et, oui, non pas seulement sur place, oui, ça j'ai bien compris. Et puis il y a une question sur laquelle vous avez été très discret mais qui m'intéresse passionnément, c'est celle des coûts, car en particulier du côté des bibliothèques universitaires, le développement de la documentation électronique, ce sont bien entendu des textes et non, pas des, et non pas des sons, mais pèse considérablement dans les budgets par rapport à l'imprimé, en particulier parce que les éditeurs, même si les BU se groupent pour faire face aux éditeurs, en particulier parce que les éditeurs sont peu nombreux et dictent largement leurs lois.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres, si des gens veulent intervenir, parce que je ne suis pas le plus à même pour répondre sur tous les sujets, sur les coûts je peux en partie, sur l'autre partie j'aurai plus de mal, mais si quelqu'un souhaite intervenir avant que je fasse une première réponse, c'est possible. Je vais vous répondre sur les coûts. Alors, sans dévoiler totalement, mais je l'ai déjà dit un tel nombre de personnes, je l'ai présenté à Nantes. ITEC a participé symboliquement au coût de développement d'ITEC. À hauteur, il y a eu jusqu'en mars, il y a eu 1000 heures de développement. Jusqu'en mars, on a financé l'heure de développement 0,80 euros. D'accord ? De l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, la collectivité a consenti à investir. Ce sont des toutes petites sommes. Mais c'était un service en test au départ, hein, très clairement. 800 euros pour ça. Puis après, il y a le coût d'abonnement. Là, il est très faible. Je ne dirai pas le chiffre. simplement parce que ça relève de la... si vous le demandez en aparté, je vous le dirai. Mais je ne le dirai pas devant tout le monde. Voilà. Simplement parce que là, ça relève des choix troyens. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les budgets de la collectivité sont limités. Lorsqu'on est à Montpellier, le budget consacré aux ressources électroniques de manière globale, hein, je tiens ce chiffre, ça remonte à 2005 de Gilles Gudin de Valarin qui me disait on a 80 000 euros pour les ressources électroniques. À 3, on tourne entre, si je me débrouille bien, hein, parce que c'est toujours pareil, si on arrive à négocier des choses, pas uniquement au travers de Carrel, si on limite un certain nombre de choses, on arrive à dégager entre 25 et 30 000. Mais en fait, le budget de départ voté, c'est 20 000. Donc à 20 000 euros, on fait rien. Rien. On fait des petits services, des services expérimentaux. Je ne sais pas quel est le budget dont vous disposez à Dole pour les ressources électroniques de manière large. C'est une petite bibliothèque, hein, mais...
De trouver des solutions qui soient à la fois simples, parce je ne suis personnellement pas informaticien, mais on travaille avec les services informatiques, des services qui peuvent être soit gratuits, soit très peu chers, et des choses qui soient souples. Et donc l'abonnement à Naxos, voilà, donc qui...
Je crois que c'est 750 euros ou 700, non,
c'est pas ce que vous... Cet ordre-là. Voilà. Donc ça représente l'achat dans une année d'une quarantaine de disques, donc sachant qu'on en achète autour de 600 par an. Voilà. Donc c'est un coût qui n'est pas... extraordinairement important.
La seule différence, c'est que c'est en fonctionnement et qu'il faut le renouveler chaque année.
Je voulais simplement donc ajouter par rapport à l'avenir du disque, évidemment, moi comme personne, ce serait impudent de vouloir faire des prédictions sur l'avenir du disque. Peut-être penser que le secteur discographique est un secteur culturel légitime qui mérite d'être soutenu dans les bibliothèques, notamment sur des musiques qui sont peu... qui sont peu marketés, comme la musique classique, la musique du monde, enfin un certain nombre de musiques. Et donc on fait cet effort, disons, de soutien par rapport à une littérature à rotation faible comme la poésie, le théâtre ou d'autres types de littérature. Et je pense que les usages vont se développer en parallèle, mais qu'il est crucial pour les bibliothèques de soutenir l'édition du disque, quoi.
Non, moi je... Très honnêtement, on n'a pas du tout le même avis. De toute façon, Nicolas Blondeau le sait. Je m'en cache pas, mais je cherche pas. C'est pas du tout pour polémiquer. C'est que je suis un petit peu effrayé par la façon dont les choses s'accélèrent en quelques semaines, hein, sur les chiffres qui sont publiés en matière de téléchargement, etc. Sur les chiffres de vente, les derniers chiffres, c'était passé sur Discothécaire, moi je ne les connaissais pas. Les ventes qui s'effondrent de 10%, c'est fou. Les derniers chiffres de vente, c'est 10% de baisse. En masse. Mais...
Par contre, les chiffres de prêts sont très variables.
Oui, tout à fait.
Il y a des bibliothèques sur lesquelles ils vont enregistrer des baisses de prêts très importantes, d'autres des hausses. Et nous, en 5 ans, on a perdu 5% on a subi une baisse de 5%, ce qui n'est pas extraordinaire.
Non, nous, c'est 1% par an, en moyenne. On est à 1,16 l'année dernière sur les CD. Mais bon, ça reste limité. Simplement. Plusieurs points de réponse sur l'avenir du CD. Alors je serai pareil, je ne vais pas dire ça va disparaître, encore que je le pense, mais la seule chose, c'est je vais prendre un exemple que j'ai pris à Plumeur. On se pose des questions dans les établissements moyens et de plus grande taille sur le DVD. On achète du DVD, le support DVD est quelque chose de très fragile. À la fin de l'année, vous avez le HD DVD et le Blu-ray, qui sont deux, alors je ne sais pas lequel des deux va l'emporter, mais qui permettent de stocker 50 fois plus d'informations. 10 fois plus dans un cas, 50 fois plus dans l'autre. Ça y est, on a un support qui remplace le DVD, déjà. Alors je ne sais pas si ça va supplanter totalement, immédiatement, parce que ça sera plus important. Les premiers lecteurs de Blu-ray et d'HD DVD, ça coûte ce que coûtait un lecteur DVD il y a 5 ans. C'est-à-dire, ça vaut entre 600 et 1000 euros minimum. Minimum, 1200 pour ceux de meilleure qualité. Aujourd'hui, un lecteur DVD, c'est 50 euros. Je parle de ça parce que pour le CD, il y a une petite chose qui, moi, m'étonne beaucoup. Dans une fac de petite ville, quand vous voulez chercher, vous voulez trouver, bon, on lit des CD sur lecteur DVD aujourd'hui, je suis d'accord, mais pour combien de temps encore ? Premier point. Deuxième point, pour pouvoir lire un CD, si vous voulez avoir une platine moyenne, de moyenne gamme, que ce soit en supermarché, que ce soit à la FNAC ou ailleurs, bon, je ne fais pas de publicité, hein, il y en a de moins en moins qui sont proposés. On lit sur son ordinateur, oui, tout à fait. La seule difficulté, c'est que, autre exemple, combien de personnes, c'est l'exemple que je vous donnais l'autre jour, demandez à Jean-Michel Audrin de la bibliothèque de Massy qui est en stage ici, demandez, mais quand vous êtes venu à Troyes, dans le train, combien de personnes avaient un lecteur MP3 ou iPod, mais lecteur MP3, combien de personnes avaient un lecteur DVD portable, un lecteur CD portable? Faites le ratio, 1 sur 20, 1 sur 30. C'est tout, c'est fait. C'est ce que je disais en introduction. On a une accélération technologique incontournable. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, point d'interrogation. Je n'ai pas d'élément de réponse. On a un point de réponse. Il y en a un deuxième en proposant des stations de téléchargement, etc. Mais là, le CD aujourd'hui, les ventes s'effondrent. Le téléchargement illégal explose. Quand on vend, je fais des ratios, mais je connais plus les chiffres exactement, mais si on vend 10 millions, 100 millions de morceaux, on en télécharge 6 milliards. Enfin, c'est de cet ordre-là. Hein, les ordres on est téléchargé illégalement, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Les principales plateformes de musique en ligne aujourd'hui, elles vendent à perte. Où elles vendent, c'est une opération blanche. On développe une plateforme commerciale, on met beaucoup d'argent dans le développement de la plateforme, on vend des fichiers à 0,99 parce que Apple a complètement écrasé le marché. Parce que Apple, il fait pas d'argent sur iTunes, il fait de l'argent en vendant des iPods. iTunes, ça sert à vendre des iPods. C'est tout. C'est pas compliqué. Hein. Mais la majorité des fichiers téléchargés, ils ne sont pas sur iPod, c'est du MP3. Ou un autre format de compression pour la musique, qui est lisible sur un lecteur à 30 euros, sur une clé USB, lecteur à 15 euros en supermarché. C'est pas des iPods qu'on vend aujourd'hui. Ils en vendent beaucoup. Mais un iPod de lambda, il faut payer au moins 150 euros. Tout le monde ne peut pas se payer un iPod. Par contre, tout le monde peut se payer une clé USB à 15 euros. Encore faut-il avoir à la DSL, à la maison, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Simplement, le CD là-dedans, une des réponses que j'avais faites pour dire, à mon sens, dans 15-20 ans, voilà, je ne m'engage pas, on verra bien quand. Le CD va se limiter en bibliothèque. C'est obligatoire, on aura moins d'offres. On pourra acheter moins de choses. C'est tout, ça vient de ça. Hein. Ça ne va pas plus loin que ça. Il y a moins de choses dans les bacs. Nécessairement, le choix et les budgets consacrés vont diminuer. Pas tout de suite, mais ça va venir. Parce que c'est un support qui est en train de. Dont la production est en train de se limiter. C'est juste un effet de marché. La deuxième chose, après, il y a les effets d'usage. Je ne sais pas. Excusez-moi. Oui. Non, non, mais je termine parce qu'il faut qu'on passe à la plateforme.
Simplement, je fais un peu de l'avis quand même de Nicolas. On doit quand même continuer de soutenir le disque sans vouloir être passéiste.
Mais, bien sûr, mais je ne suis pas.
Qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce qui entoure le disque? Parce que le disque, ce n'est pas que de la musique quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce qui entoure le disque, les livrets, les brochures, qui sont des véritables.
Je ne peux pas vous répondre. Je ne vais pas.
Si on abandonne complètement le disque, on abandonne plein de choses avec.
Ni les Cassandres, ni les voyants, je ne peux pas. Je ne sais pas. Il y a des solutions, il y a des éléments de réponse. Mais on se posait la question hier soir avec Christian Amouget en disant, mais et avec d'autres, et avec Jean-Michel Audrin, on enlève les CD. On enlève les CD de l'espace. On met deux disques durs. Parce que c'est ça, hein. On met deux disques durs. Et vous stockez tous les CD sur les deux disques durs ou sur trois disques durs. Hein, voilà. Est-ce que il est légitime avec trois disques durs et 5, 6, 10, 12 postes d'écoute? Parce que je parle bien d'écoute sur place, là, parce qu'avec deux disques durs, de toute façon, on ne peut pas prêter les fichiers. La nouvelle loi ne permet pas de les prêter pour le moment. Pour le moment. Les solutions de prêt numérique, on est en train d'y réfléchir. Mais est-ce qu'on laisse déjà les collections qui sont autour du fonds de CD, les livres qui parlent de musique, hein, les partitions, les DVD, les CD-ROM, la presse, si personne ne peut choisir, écouter, naviguer sur un CD, ou bien même aller consulter. Parce que sur un disque dur, vous venez de le souligner, on aura la jaquette, on aura un texte, on aura le titre des morceaux, point barre. Mais on n'aura pas le commentaire comme on trouve encore, qu'on avait sur un vinyle. Oui, oui, non, non, mais pour le moment, on n'a pas entièrement. Mais si c'est en train d'évoluer, il y a des choses que je ne sais pas. Hein.
Voilà, donc Tony Deveuille de la médiathèque de Belgique, disons, appelons-la comme ça, elle s'appelle voilà. autrement ouais. en fait. Je voulais simplement intervenir par rapport à, d'abord au fait qu'on va garder, évidemment qu'on va garder le support
bien
physique
sûr.
Encore un certain temps.
Bien sûr.
Ce qu'il faut bien voir, et je pense que l'exemple du train avec le MP3 était un ouais. bon exemple, c'est que les nouvelles générations n'ont plus du tout les mêmes habitudes de consommation. Donc ça, il faut vraiment être très conscient et donc déjà anticiper ce genre de choses. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport au livret et aux mm-hmm. choses pareilles, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas parce qu'on fait du téléchargement, et je parle vraiment de téléchargement, qu'on ne peut pas y trouver un livret, qu'on ne peut pas y trouver des images, etc. C'est un peu ce qu'on fait, nous, enfin, ce qu'on va proposer. Oui. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. Voilà, on développera peut-être ça plus tard.
Mais, tout à fait. Bon, et bien on va le développer maintenant.